Chapitre 63. Trois gros 4x4 noirs aux vitres teintées, gyrophares et sirènes allumées, traversent la ville à vive allure en transportant 12 hommes armés. Ils forcent le passage en contraignant les autres véhicules à s'effacer devant eux le long des avenues, avant de s'aventurer dans des quartiers dont les habitants disparaissent comme par miracle des trottoirs en les apercevant. Arrivés à 3 km de leur objectif, leurs conducteurs éteignent les sirènes, et il ne reste plus que le rugissement des moteurs et le suintement des pneus sur l'asphalte crevassé. Marshall Ackerman a pris place dans le véhicule de tête. Un gilet pare-balles passé par-dessus son pull, il tient entre ses mains un pistolet d'usine transformé en arme automatique. L'arme est équipée d'un chargeur de 20 projectiles, et 2 chargeurs de rechange sont accrochés à la ceinture de son propriétaire. S'ils arrivent à capturer Jane Oak vivante, tant mieux. Mais personne ne leur fera le moindre reproche si elle est abattue pendant l'assaut. Il en est de même pour Randall Larkin. Le convoi ralentit et se range lentement le long du trottoir à quelques dizaines de mètres de l'objectif, un bâtiment sans imagination du milieu du XXe siècle, l'un de ces temples de l'industrie que ces dieux ont abandonnés de longue date, ainsi qu'en témoigne sa façade de tôle ondulée déformée et le crépi lépreux de ses piliers en béton. Ackerman et ses hommes décident d'escalader la grille, mais le cadenas qui la protège a été coupé, et c'est l'affaire de quelques instants de retirer la chaîne qui la retient. La grille coulisse avec un léger cliquetis, et le commando avance avant de se disperser autour de l'usine. Le bâtiment est fermé à ses deux extrémités par de grands volets roulants, à côté desquels s'ouvre une porte ordinaire. En toute logique, Jane Oak aura garé la Mercedes derrière l'usine, loin de la rue, avant d'obliger son prisonnier à pénétrer dans l'entrepôt, si c'était bien son intention de l'enfermer là, avant de se débarrasser de la berline. Les 3 chefs d'équipe se passent le mot en chuchotant dans le micro des oreillettes, grâce auquel ils communiquent. Il s'agit d'éviter de se tirer dessus entre collègues. Ackerman est le deuxième à entrer à l'intérieur. Tous ses hommes se dispersent à travers le bâtiment, épaules et têtes baissées. Il leur faut quelques instants pour mesurer le danger à l'intérieur d'un espace caverneux, grand comme un terrain de football, dans lequel règne une pénombre diffuse. À une 50aine de mètres de la porte, un rond de lumière troue l'obscurité, émanant de ce qui ressemble à une lampe tempête posée sur un plateau soutenu par 2 barils. Au centre du cercle lumineux, 2 fauteuils de jardin. L'un est inoccupé, l'autre pas. Sans qu'il soit possible de reconnaître le visage de l'occupant du siège, il est clair qu'il est mort à en juger par sa posture désarticulée. Les membres du commando s'approchent prudemment, jusqu'à ce que le sang qui tache la chemise de l'inconnu confirme le verdict initial. Le mort regarde le plafond, ses traits sont déformés par la plaie béante qui s'ouvre juste au-dessus de l'arête du nez, mais le visage de Randall Larkin est reconnaissable. Si Larkin est mort, Jane Oak aura déjà pris la fuite. Ils l'ont probablement raté de quelques minutes. Trop tard, déclare Ackerman dans le micro de son oreillette. Au même instant, un bruit sourd signale la détonation d'une bombe incendiaire, suivie par un éclair qui chasse soudainement l'obscurité en jetant une lumière crue sur des amas de papier. La flamme jaillit à plus de 5 mètres de hauteur, avant de retomber en cascade et d'embraser tout ce qu'elle touche. Si Jane Oak a laissé par mégarde un indice compromettant derrière elle, Ackerman et ses hommes doivent le récupérer sans attendre, avant que l'incendie ne le fasse disparaître et que la fumée n'aveugle le commando. Les hommes d'Ackerman changent subitement d'avis en voyant émerger de l'obscurité un grouillement indistinct dont ils comprennent soudain qu'il est provoqué par une horde de rats aux yeux rouges, chassés de leur nid par les flammes. Des documents en feu poussés par le souffle de l'incendie, tels des corbeaux incandescents, tournoient autour des hommes armés dont ils menacent d'enflammer les cheveux, les forçant à fuir en direction de la porte ouverte, au milieu des rats qui recouvrent leurs chaussures et s'accrochent aux jambes de pantalon. Les hommes écrasent des rats par dizaines, glissent sur une matière visqueuse dont ils n'osent pas imaginer la nature en battant des bras, de peur de perdre l'équilibre dans la masse répugnante des rongeurs qui couinent de terreur. Les membres du commando, perdant toute notion de solidarité, se bousculent sans pitié sur le seuil de l'étroite porte, les poumons rongés par la fumée, la bouche emportée par l'odeur astringente des crottes de rats qui remplacent l'oxygène. Ackerman émerge du nuage étouffant et retrouve la lumière dans l'océan des rats terrorisés qui s'écoulent sur le macadam, mangés par les mauvaises herbes. Le souffle court, il a conscience d'avoir frôlé la mort. Bien qu'il soit peu habitué à se poser des questions existentielles, il a brusquement le sentiment que la bombe incendiaire de Jane Hawke brosse un tableau prémonitoire du sort qui l'attend.